10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Bonjour, Rachida Dati.
Bonjour.
La droite française se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, hein, tiraillée entre le populisme qui s'installe un peu partout en Europe et dans le monde, et une démocratie sociale plus au centre, réduite au silence depuis l'élection présidentielle. La droite du parti LR veut retrouver sa place dans le débat national avec son nouveau chef Christian Jacob et une nouvelle équipe dirigeante qui sera connue cette semaine. Le défi sera donc de parler aux Français sur d'autres sujets que l'immigration ou la réduction des impôts, des thèmes d'ailleurs préemptés par l'actuel président de la République. Vous préparez-vous à Paris au combat des élections municipales de mars 2020. Vous êtes actuellement maire du 7e arrondissement. Vous avez été garde des Sceaux, député en Europe. À ces titres, vous avez une connaissance des enjeux de notre époque et vous avez des choses à dire sur les sujets brûlants donc de cette rentrée. Vous avez été aux côtés de Nicolas Sarkozy depuis votre arrivée en politique et vous êtes resté fidèle à vos convictions. Alors vous allez nous dire si aujourd'hui vous incarnez la droite Sarko qui a été au pouvoir ou la droite Trocadéro qui a été envoyée au purgatoire. Et pour vous interroger, eh bien Nicolas Barré des Échos que je salue et Damien Fleurot de CNews qui vous pose la première question sur une question d'actualité.
Bonjour Rachida Dati. Édouard Philippe hier a dénoncé concernant le mouvement qui touche la SNCF un détournement du droit de retrait des cheminots. Faut-il des mesures judiciaires contre les cheminots qui se sont mis en arrêt de travail justement?
Avant de parler des mesures techniques ou juridiques, moi j'ai une pensée pour toutes ces familles qui sont impactées par cette grève surprise. Enfin, on peut appeler ça plutôt une grève qu'un droit de retrait.
Vous qualifiez ça de grève?
C'est une grève
déguisée,
surprise.
Déguisée, mais c'est... pas de droit de retrait.
Non, j'en suis même pas à vous dire déguisée, pas déguisée. C'est une grève. Donc, le résultat, c'est qu'il n'y a plus de train. Et les familles les plus impactées, ce sont les familles les plus modestes.
Mais la nuance est importante, parce que s'il y a une grève, il y a un service minimum.
Bien sûr, je vais y venir. Et je vous dis que les familles les plus modestes sont les plus impactées. Comme vous le savez, quand vous voyez que l'ensemble des Ouigo, qui sont des trains pour lesquels vous les achetez moins cher, beaucoup, très en avance, pour organiser effectivement votre vie, pour des raisons aussi matérielles. Quand je vois toutes ces familles qui se sont retrouvées hier sans pouvoir partir en vacances, avec des contraintes pour les parents, pour les enfants, pour les familles en général, mais même si vous vouliez vous déplacer, je trouve ça très injuste et très inacceptable.
Donc Édouard Philippe a raison.
Non, mais avant, vous dénoncez, on dénonce une mesure technique. Avant d'arriver à ça, il faut quand même dénoncer, j'entends encore ce matin dire il faut les indemniser. Mais l'indemnisation ne changera pas ni les contraintes supplémentaires, ni les frais supplémentaires, ni effectivement quand des enfants ne peuvent pas partir en vacances. Ensuite, ce droit de retrait, effectivement, le fondement juridique est discutable. On peut effectivement dire que ça n'est pas fondé juridiquement. Ça, la justice peut effectivement le déterminer.
Donc vous soutenez le Premier ministre et Guillaume Pepy, le patron de la SNCF, sur ces menaces.
Je n'ai pas terminé. Donc je vous dis simplement que la question de la déshumanisation des services publics est une question qui mérite d'être posée. Ce droit de retrait et cette grève a été motivé par quoi? De ce qui remonte, c'est que, et c'est sur la table depuis un moment, ça ne date pas d'aujourd'hui, et je vous dirai pourquoi, parce que effectivement, vous disiez tout à l'heure, la droite n'est pas entendue ou est de retour, on a pris justement des mesures pour lutter contre la déshumanisation dans les services publics. À une époque où on parle, par exemple, d'insécurité ou d'atteinte aux femmes, notamment, et en particulier dans les transports. Quand vous voyez qu'il n'y a plus de contrôleurs, qu'il n'y a plus d'agents, ni sur le quai, ni dans le train, ça contribue à une insécurité. Je pense que la présence humaine est à la fois rassurante et dissuasive.
Mais ça, c'est pas nouveau, ça fait presque plus de 10 ans maintenant que...
Donc ce que vous dites, c'est que le gouvernement n'a pas vu que les conséquences des
actions...
La
SNCF, il y a quand même des capteurs, il y a quand même, c'est un service public, c'est un service qu'on utilise tous les jours, tout ça remonte. Et on se rend compte, vous le savez très bien, nombre de femmes ne prennent plus les transports en commun. Pour ces raisons-là, en disant on est dans des rames tout seul, c'est pas le conducteur qui va venir dans la rame pour les défendre s'il y a un problème. Donc cette question mérite d'être posée. Maintenant, le moyen d'action, moi je ne crois pas que ce soit le meilleur, parce que ce sont toujours les mêmes qui sont impactés, les plus modestes, les plus en difficulté, et ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre le train. Et a fortiori, les trains les moins chers. Donc, il est urgent qu'on puisse se préoccuper de cela. Je vais vous donner un autre exemple. Quand je dis la présence humaine, on sait, c'est vrai, moi j'ai été favorable à la vidéosurveillance. Mais la vidéosurveillance sans un agent, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai été à l'origine de pouvoir imposer dans la loi des quotas de gardiens dans les immeubles, notamment les logements sociaux. C'est bien de mettre un digicode, c'est mieux de mettre un gardien. Donc ce sont des aspects complémentaires. Donc ces sujets-là, il ne faut pas, enfin, c'est pas un petit sujet.
Ce qu'on a entendu également, c'est que vous dites, au fond, le gouvernement n'a rien vu arriver, les capteurs, il les a pas entendus. C'est ça que vous
voulez
aussi pointer ce matin ?
Quand beaucoup n'ont pas vu arriver les gilets jaunes, alors que la France, ça grondait depuis un moment. Notre pays est vraiment fracturé. Je prenais comme exemple tout à l'heure, avant que nous commencions l'émission, je vous parlais, rappelez-vous de l'époque quand Lionel Jospin était Premier ministre. Moi, je me souviens, il y avait un débat, parce qu'il y avait une croissance, il y avait une question de cagnotte. L'économie se portait bien, ça s'est fini comment ? Avec Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Parce qu'on n'a pas vu que le pays se fracturait et qu'il était dans une insécurité croissante.
Vous dites que l'économie n'est pas tout. On va continuer. Nicolas Barré.
Alors justement, sur un autre sujet où on sent monter un peu de contestation, en tout cas de questions, c'est la réforme des retraites, qui est peut-être aussi d'ailleurs en arrière-fond de ce qui se passe à la SNCF. Le gouvernement n'exclut plus un report dans la mise en œuvre, sans céder sur le fond. Vous êtes de quel côté là, sur ce débat ? Est-ce qu'il faut cette réforme, il faut la faire vraiment, ou est-ce que vous pensez qu'il faut au contraire temporiser ?
Monsieur Barry, laquelle de réforme ? Dites-moi laquelle ?
Celle qui est présentée par le
gouvernement. D'accord, laquelle ?
Qui a été présentée par...
Qui va aligner les régimes, tous les régimes, et supprimer régimes spéciaux, régimes autonomes.
Je veux bien que vous soyez porte-parole de M. Delevoye.
Non, pas du tout, je vous posais une question.
Je vous dis simplement laquelle. Est-ce que c'est ce qu'a présenté M. Macron à l'issue du G7 Biarritz ? Est-ce que c'est celle présentée par M. Delevoye ? Est-ce que c'est celle de Mme Buzyn ? Celle de M. Édouard Philippe ? Si vous me dites laquelle, je vais vous dire si on est d'accord ou pas d'accord. Mais dans le fond, qu'il faille réformer les régimes des retraites, oui. Mais ça, c'est dire que... Avec l'évolution de la société, avec les changements de régime, des modes de travail, de modes de vie, des régimes, ne serait-ce que des cadres d'emploi, tout ça, donc ça, c'est nécessaire. Depuis toujours, on réforme les retraites. Nous-mêmes, nous en avons fait d'importantes.
François Fillon a dit « j'ai mis des millions de personnes dans la rue à côté d'un gouvernement qui a été peut-être plus petit joueur, selon sa boutade ». Une réforme importante se mesure à l'importance de la mobilisation contre elle ?
Moi, je vous dire, je ne prendrai pas ça sur le ton de la boutade quand on a vu l'état de la France après des manifestations d'une extrême violence. Comme on a vu la désespérance de millions de Français s'exprimer et s'exprimer de manière légitime. Vous savez, c'était ce qu'on aurait pu qualifier ces invisibles qui devenaient visibles sur les ronds-points. Ben moi, je dirais pas on est petit joueur ou pas grand joueur. Et puis ensuite, les phénomènes de violence qui s'en sont suivis. Donc, moi, je ne serai pas là. C'est simplement de la compréhension. Donc, moi, je suis favorable à ce qu'on réforme les régimes de retraite. Ça, c'est important de revoir les régimes de retraite, de voir pour équilibrer aussi les caisses de retraite. C'est important qu'on puisse assurer, en tous les cas, à nos aînés et à nos enfants et nos petits-enfants, qu'ils puissent bénéficier d'une retraite décente. Maintenant, moi, je ne sais pas...
Donc, sans reculer sur la mise en œuvre.
On a parlé de l'âge pivot, de l'âge légal, de la durée de cotisation, à point...
Tout ça, ce sont des sujets dont on discute.
Dont on discute, oui, mais...
Mais vous dites, c'est pas clair, c'est ça que vous dites.
Voilà, mais il y a plusieurs réformes présentées. Donc,
des sujets qui ne sont pas arrêtés, vous le savez très bien.
Bien sûr.
Qui sont en discussion actuellement.
Monsieur Barré, non. Les sujets ont été arrêtés à un moment donné parce qu'il était question que cette réforme passe avant la fin de l'année. Maintenant, ça a été reporté après les municipales. Donc, il y a bien une raison. C'est qu'on n'est pas au clair. Et les Français... Enfin, cette réforme, ce qui a été proposé, a mis tout le monde dans la rue. Les professions libérales, les salariés, les fonctionnaires. Donc, à un moment donné, on peut s'interroger sur la nature de la réforme.
Damien Fleurot, on va continuer sur un autre sujet d'actualité très important ce matin.
Oui, Rachida Dati, le Parlement britannique a voté un amendement hier obligeant Boris Johnson à demander un nouveau report du Brexit jusqu'au 31 janvier. Jusqu'à quand cette situation va-t-elle durer ? Est-ce qu'il faut un nouveau référendum, peut-être ?
Non mais vous avez raison et je parle en présence de Agnès Evren qui est députée européenne et qui est très engagée sur ces questions européennes et notamment très engagée dans ces discussions qui ont lieu dans le cadre du Brexit. Mais le spectacle donné à l'ensemble des Européens sur l'Europe et les institutions européennes est extrêmement dommageable pour l'Europe. Franchement... faut qu'on a l'impression d'un cirque, faut que ça se termine. Et moi, je trouve que l'Europe ne doit pas être prisonnière et otage d'un Parlement britannique qui ne veut pas décider.
C'est le
cas
aujourd'hui.
On n'a pas de décision pour un accord, on n'a pas de décision pour un nouveau référendum. Moi, je pense qu'à un moment donné, le Parlement européen devrait se saisir en disant stop. Voilà. Vous avez souhaité sortir, et bien vous sortez. Accord, pas accord. Mais on ne peut pas indéfiniment reporter cette sortie, toujours dans l'avantage des Britanniques.
Même si sans accord, cela peut pénaliser des entreprises françaises, certains
pas
secteurs.
Pas forcément, mais c'est, aujourd'hui, ça pénalise aussi la France. Parce que, est-ce qu'on met des douaniers ? Est-ce qu'il faut qu'on, parce qu'il faut qu'on se prépare à remettre des douaniers ?
Est-ce que la France est prête pour cette situation ?
En tous les cas, dans le cadre, il y a Amida Rezeg et aussi Agnès Evren et d'autres élus du Conseil régional. La région s'est préparée à l'accueil des entreprises qui souhaitent s'installer en France. Notamment, j'aimerais que Paris redevienne une vraie place financière.
Est-ce que Paris profite de cette situation ?
Oui,
est-ce que Paris
en profite ? Elle peut en profiter.
Parce qu'on dit aussi qu'à cause du Brexit et d'un certain nombre de familles qui sont revenues de la City à Paris, ça fait flamber les prix dans les arrondissements comme le vôtre d'ailleurs.
Mais le sujet du logement, c'est pas uniquement la flambée de l'immobilier, c'est pas uniquement lié au Brexit. Ça, c'est encore une autre question.
Bah, ça y contribue apparemment.
Mais ça peut y contribuer. Vous avez raison. C'est pour ça qu'il faut qu'on se prépare. En tous les cas, à la région, on a effectivement mis des mesures sur la table. Mmh. Il y a par exemple des systèmes et des dispositifs d'accueil pour les étudiants, pour les familles, pour les expatriés. Vous savez que le Royaume-Uni est le deuxième pays au monde à accueillir les étudiants. Donc, on a peut-être une opportunité nous de aussi bien accueillir des étudiants. Donc on a des choses à faire, mais on ne peut pas être comme ça trimballé indéfiniment alors qu'on a des mesures à prendre importantes, ne serait-ce que remettre des douaniers, par exemple. Mais il faut faire attention parce que ça s'est aussi passé par le passé. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas être pris en otage très longtemps, parce que on connaît, parce que les Britanniques, qu'est-ce qu'ils vont faire, et bien, à un moment donné, c'est ou dumping fiscal ou dumping social. Attention aussi, il faut l'anticiper. Voilà.
On continue à se retrouver donc à en parler avec madame Dati après donc la pause. À tout de suite.
10h 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et avec l'ancienne garde des Sceaux, Rachida Dati, et la question, qui sont les vrais ennemis de l'intérieur, Nicolas Barré.
Oui, Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, veut interdire les listes communautaires aux municipales, et pour ça il va déposer une proposition de loi visant à interdire tout financement public d'un mouvement communautariste qui ne respecterait pas, dit-il, les principes de souveraineté nationale et de laïcité. Il veut aussi interdire le voile sur les affiches électorales. Qu'est-ce que vous pensez de ces propositions?
Oui, j'ai vu effectivement des propositions qui vont dans ce sens. De toute façon, moi, je me suis toujours battue. Et vous ne pouvez pas me prendre en défaut, ni dans mon parcours, ni dans mon expérience, ni dans ma vie, sur à conforter ou à excuser toute forme de communautarisme. Mon engagement politique, c'est le combat contre les communautarismes. Ouais. C'est ce qui fracture notre destin commun. Et donc, ça, c'est une réalité. Alors, moi, je pense qu'il faut interdire, parce qu'il faut trouver une définition d'une liste communautaire. Parce qu'il faut faire attention, parce qu'on a des listes aussi régionalistes. En France. Donc,
par exemple, le parti animaliste, pour vous, c'est
quoi ? Non, mais
par
exemple, mais même en Corse, on a des listes qui sont plus nationalistes ou même dans d'autres
et
régions
alors,
de France.
Il faut interdire quoi ou ne pas interdire quoi ?
Il faut faire attention parce qu'il faut trouver la définition. Moi, je pense que souvent, comme on ne veut pas nommer les choses, on fait un truc fourre-tout, puis finalement, c'est
alors,
pas efficace.
Alors, vous les nommez en général. Alors, voilà. Allez-y.
Alors, qu'est-ce qu'on interdit ?
Moi, je pense qu'il faut interdire toute profession de foi qui va à l'encontre de nos principes républicains. Et ce qu'on appelle le communautarisme, finalement, on met des mots quand on ne veut pas s'attaquer aux choses. C'est que nous, par laxisme, enfin, les responsables politiques en général, on a laissé prospérer un communautarisme qui pouvait se réduire, en tout cas s'y attaquer, et ce n'est pas Amida Rezeg qui va me contredire sur ces sujets. C'est-à-dire qu'on a laissé prospérer par laxisme.
C'est quoi le problème alors ? Il est où, c'est quoi ? C'est une forme d'islam politique ?
Après, on dit c'est l'islam politique, c'est une religion dévoyée. Moi, je ne suis pas une théologienne. Je vous dis, je sais ce qui est interdit par la loi. Voilà. L'inégalité homme-femme, c'est interdit par la loi. L'atteinte à la laïcité, c'est interdit par la loi. Mais à un moment donné, il faudrait peut-être avoir une politique pénale en conséquence. Moi, j'ai vu tout ce qui concerne en ce moment, on voit le sujet du voile, le sujet de l'islamisme, l'islamisme politique, le salafisme, tout ce qu'on veut. Mais les conséquences de tout cela, c'est que, est-ce que vous avez entendu la garde des Sceaux dire, écoutez, nous, on a une politique pénale ferme, ces comportements-là seront réprimés systématiquement. Moi, je ne l'ai pas entendu. Moi, je pense que, effectivement, dans un état de droit, dans un pays républicain comme le nôtre, la politique pénale, la fermeté, la clarté doit être de mise.
Mais pourquoi ne parle pas, selon vous ? Parce qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut que le président parle.
Je pense que comme on a laissé, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas en cause, comme on a laissé prospérer pendant des années des comportements, c'est qu'à un moment donné, on a été surpris, après on a dit qu'il faut comprendre. Et après, moi, je vais vous donner un exemple précis que j'ai mis en œuvre, et j'ai été très contestée à l'époque en disant, attention à la stigmatisation. Lorsque j'étais garde des Sceaux, j'ai un peu, je dois dire, remis en cause des contrats dans la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Moi, j'ai constaté qu'il y avait des éducateurs qui n'étaient pas
ligne républicaine,
qui n'étaient pas en accord avec la mission qu'on leur demandait. Donc, j'ai mis fin à des contrats. Non, mais c'est important de le dire.
Mais Rachida Dati, vous parlez de laxisme de l'actuel gouvernement. Mais finalement, par exemple, sur le sujet précis du voile et des mères accompagnatrices de sortie scolaire, et finalement, qu'avez-vous fait quand vous étiez en responsabilité ? Est-ce que vous soutenez, par exemple, cette proposition de loi visant à interdire les mères accompagnatrices de sortie scolaire de porter le voile ou pas ?
Vous faites bien de poser cette question, puisque le péché originel de tout cela, c'est 89, quand Lionel Jospin est avec l'affaire de Creil. Attendez, parce que ça mérite aussi de rappeler une petite histoire, parce qu'on a toujours l'impression...
Parce que vous avez travaillé à ce moment-là, justement.
Donc, en 89, le Conseil d'État décide à la place du politique. Et là, on laisse une tension s'installer au sein de la communauté éducative, en disant finalement, certaines viennent pas, comme on apprécie. Et donc, il y a une tension au sein de la communauté éducative. Donc, tout ça continue. Je me souviens, François Bayrou, ministre de l'Éducation nationale, moi, je travaillais à l'époque avec Simone Veil, qui a demandé à François Bayrou, on a travaillé ensemble. J'ai travaillé, je suis allée à l'Éducation nationale, avec Serge Lasvigne, d'ailleurs, qui était le directeur juridique, pour pouvoir, parce que là, on a eu une montée du voile dans les écoles. Et là, on a eu un phénomène qu'on n'a pas su maîtriser. Attendez. Et donc, on a mis en place... Moi, j'ai sillonné toute la France, toutes les académies, parce qu'il y avait une tension entre les enseignants et les directeurs, chefs d'établissement, et ensuite entre les établissements et les rectorats.
Et comment vous avez réglé le problème ?
Et donc, on est allé voir d'abord quelle était l'origine de cette augmentation des voiles à l'école, parce qu'il n'y avait pas une augmentation d'arrivée, où ce n'était pas un facteur externe. Et puis, nous avons apaisé un peu le climat. Mais ça ne s'est pas arrêté. Ça nous a conduit à quoi ? Vous dites qu'on n'a rien fait. La loi de 2004.
D'accord.
Donc, on a mis en place
première
la loi de 2004.
Est-ce qu'il faut aller plus loin aujourd'hui ?
2010, deuxième loi sur effectivement le voile intégral. Et aujourd'hui, moi, je pense que si on aurait... Moi, j'ai été un peu choquée, enfin surprise et choquée par les propos du Premier ministre. Quand il dit à l'Assemblée nationale, non, finalement, on ne fera rien, il faut continuer comme ça, c'est très bien comme ça. Mais demain, attendez, la tension qui existe aujourd'hui, elles existent, les tensions dans les établissements scolaires.
Donc, on légifère.
Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Attendez. Donc, il y a des tensions dans les établissements scolaires. La tension qui est entre les enseignants et les chefs d'établissement, ça va se transformer comment, monsieur Fleury ? Vous savez quoi ? C'est qu'à un moment donné, vous allez avoir des affrontements de parents. Parce qu'il y a des parents qui vont dire, moi, je ne veux pas que mon enfant aille avec une femme voilée. L'autre, il va dire, bah oui, mais moi, mon enfant...
Alors, donc, vous avez posé le constat et vos craintes.
Moi, je
quelle
considère,
politique publique ?
Je considère que les sorties scolaires sont... Ça participe de l'activité scolaire. Donc, parallélisme des formes, c'est
d'accord,
interdit à l'école, c'est interdit dans le cadre des sorties scolaires. Il faut être clair. Puis, je veux vous dire, certains disent « Oh là là, ça va stigmatiser ». Mais est-ce que les Français de confession musulmane ont contesté la loi de 2004 ? Non. Est-ce qu'ils ont contesté la loi de 2010 ? Non. Et bien, ils ne contesteront pas plus celle qui arrivera
à ce propos,
par la suite.
Puisqu'effectivement, c'est vraiment dans le débat... et que ça vraiment concerne tout le monde. Bernard Cazeneuve sur Europe 1, hier, a déclaré « On a besoin d'entendre les musulmans de France dire leur attachement à la République et de le faire plus fortement. » Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Ah oui, comment ? Comment ? Il ne vous a pas échappé qu'on est dans une République une et indivisible, et laïque. Enfin, il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont de confession musulmane et qui n'en parlent pas et qui ne veulent pas que ça se sache. C'est de l'ordre de l'intime. Donc, certains vont être choqués par ce type de proposition. Et pourtant, moi, j'apprécie Bernard Cazeneuve. On a bien travaillé ensemble, d'ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la radicalisation et dans le cadre européen. Mais là, donc, on va dire, c'est comme ça qu'on communautarise. Chacun doit défendre une communauté.
Non, il regrette qu'il n'y ait pas davantage de prise de position forte, de grandes voix fortes de la communauté musulmane.
Mais voilà ce qu'il dit. Les grandes voix, ça serait le CFCM. Mais moi, je pense que le CFCM, aujourd'hui, a peu,
le Conseil du culte musulman.
A peu d'audience ou peu d'impact auprès des Français de confession musulmane. Je dis que finalement, Zidane a plus d'impact que le CFCM. Ah, donc aujourd'hui, de demander aux Français... Les gens ne vont pas se dévoiler. pardon de l'expression, mais pour dire attention, alors vous ne saviez pas, je vais vous dire, je suis musulman, alors je vais vous dire, alors je suis musulman, je conteste ce que font les musulmans, mais c'est comme ça qu'on ajoute de l'attention à l'attention.
Parce que tout ça s'inscrit aussi dans une réflexion qui a été au fond lancée par le président de la République lorsqu'il a rendu hommage aux policiers donc, qui ont été abattus à la préfecture de Paris. Société de vigilance, comment vous comprenez cela, vous ? Comment on met ça en place ?
Tout le monde est d'accord pour que tout le monde soit vigilant. Regardez dans les espaces publics, on vous demande, on vous dit attention si vous voyez un colis abandonné, attention.
Oui, mais là maintenant, c'est vigilance face aux personnes radicalisées ou supposées telles.
Il faut faire très attention. Moi, sur la radicalisation, on y travaille. Vous savez, le jour du 11 septembre 2001, moi j'étais en audience, je tenais une audience dans le centre pénitentiaire Fleury-Mérogis, le jour de ces attentats. Je peux vous dire que je suis revenue le lendemain. Ben Laden était acclamé dans la détention. Donc la radicalisation, ça ne date pas d'aujourd'hui. Rappelez-vous les attentats de 95, quand Khaled Kelkal est abattu. À ce moment-là, on trouve un article dans Le Monde parce qu'il avait rencontré une sociologue allemande, je me souviens, et il avait dit « Je ne suis ni français ni algérien, je suis musulman ». Donc la radicalisation, elle ne date pas d'hier ou d'avant-hier. C'est pas un sujet, c'est pas un petit sujet. Et d'ailleurs, quand vous voyez qu'il y a une radicalisation au sein même du cœur du renseignement français, ça doit nous interroger. Donc, ce n'est pas une affaire...
C'est passé à la préfecture de Paris. Oui, il y a eu un ratage, un dysfonctionnement.
Oui, bien sûr
qu'il
y a eu un ratage.
Il faut réorganiser la préfecture de police.
De toute façon, ça amène à mettre d'autres types d'outils de détection. La détection, ça revient à la vigilance, c'est une affaire de professionnels. La question n'est pas d'avoir le maximum d'informations. La question, elle est comment on l'analyse. Tous les auteurs des attentats, ils étaient tous surveillés. On les connaissait tous, mais on n'a pas détecté quand ils sont passés à l'acte. En tout cas, on n'a pas détecté ou en tout cas démantelé leur réseau. Donc, c'est à un moment donné, on a un problème dans l'analyse de l'information. Et ça, je vous le dis, M. Darmon, c'est une affaire de professionnel. C'est pas le voisin qui va dire il a une barbe, donc il va peut-être passer à l'acte. Ça n'est pas possible. C'est une affaire de professionnel. Et là, c'est une mission régalienne du cœur de l'État. Et ça, c'est extrêmement important. On a mis des outils en place de prévention, de détection, de la lutte contre la radicalisation. On a avancé. Moi, j'avais été effectivement un petit peu, parce que j'avais considéré, pour avoir rencontré, d'ailleurs dans le cadre de mes missions, dans des établissements pénitentiaires, des détenus radicalisés. Moi, j'ai toujours dit, une fois radicalisé, très compliqué de déradicaliser. Et donc, il faut des outils sécuritaires, des outils de prévention, des outils de détection et des outils de sensibilisation. Et tout ça, ça se fait dans une chaîne complète, très intégrée et de professionnels. Voilà. Sinon, on va encore pleurer.
Ça veut dire que quand le président Macron dit tout le monde doit s'y mettre, vous considérez que ce n'est pas la bonne démarche ?
Non, qu'il puisse nous alerter sur cette question, c'est important qu'il puisse sensibiliser les citoyens français sur cette question. D'abord, c'est un sujet qui est devenu bien au-delà de nos frontières, important, mais c'est important. Mais la détection, la prévention et la lutte contre la radicalisation, c'est une affaire de professionnels. Moi, j'ai l'impression que certains, même je m'étais opposée à Manuel Valls quand il disait oui, nous allons installer des associations pour lutter contre la radicalisation. Je dis, mais c'est pas SOS Amitié. Je sonne, bonjour, je suis un peu radicalisé, aidez-moi. Quand ils sont dans la radicalisation, ce sont des individus dangereux. Et donc, il faut mettre des professionnels.
Et justement, on va continuer à en parler dans quelques instants.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Il y a l'ex-garde des Sceaux, députée européenne, et la candidate Dati à Paris. Donc, on va aussi donc en parler. Paris, comme vous l'aviez dit, effectivement, ramasse et rassemble les problèmes de la France. Vous êtes candidate, officiellement, investie ?
Ça ne vous a pas échappé que j'étais candidate à la mairie de Paris, évidemment.
Mais est-ce que vous êtes investie par votre parti LR ?
Le président des LR vient d'être élu. Et donc, la commission d'investiture, je pense que d'ici 10 jours, 15 jours maximum, elle se tiendra.
Et votre adversaire, alors maintenant vous allez pouvoir le désigner, la désigner, c'est Hidalgo ou Griveaux ?
Moi, mon adversaire, c'est le bilan de la mairie de Paris. Est-ce que vous êtes content de Paris ? Je ne vous demande pas vos opinions politiques, mais est-ce que vous êtes content de Paris ? Vous circulez bien, c'est propre, c'est sécurisé. Si vous avez une famille, vous vivez bien. Donc, je crois que tout le monde répond de la même manière, quelle que soit, d'ailleurs, leur couleur politique.
Alors, justement, on va en parler sur chacun de ces sujets. D'abord, Paris n'est pas épargné par le problème des migrants. Il y a des campements qui s'installent aux portes de la capitale, notamment aux portes de la Chapelle. Concrètement, d'abord, qu'est-ce que vous reprochez à la maire de Paris dans sa gestion de ce sujet-là? Et qu'est-ce que vous proposez de faire?
Ça tombe bien parce que Pierre Licia, qui est présent ici, nous sommes allés tous les deux, nous sommes d'ailleurs les deux seuls élus, à nous être rendus sur ce qu'on appelle la colline du Crac. Pardon pour les auditeurs qui habitent en province, mais c'est un lieu sur lequel...
Je crois que tous les candidats s'y sont rendus avec plus ou moins de caméras, Benjamin Griveaux ou
Anne Hidalgo. Bien sûr, mais vous pouvez aller à côté, vous pouvez aller sur le pont, sur le pont, puis vous regardez de loin. Nous, on est rentrés à l'intérieur et on a vu ce qui s'y passait.
Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur?
Non, mais... Les dealers, les toxicomanes, les trafics en tout genre, une femme qui avait accouché la veille, des détritus, je ne vous dis pas, un mélange des rixes, donc à l'intérieur. Donc moi, je veux bien que vous me disiez, on s'y rend? Oui, on peut s'y rendre, je parle sous le contrôle de Pierre. Non, on ne s'est pas rendu, nous, sur le pont, et de loin, avec des gens qui sont aérés, des zombies, il y a de tout. Et donc, on a repoussé ça, on a mis ça sous le pont.
Donc vous faites quoi?
Donc
vous reprochez ça à la mairie de
Paris? Sur les migrants, aujourd'hui, nous avons 3000 migrants sur les trottoirs parisiens et très bien concentré, c'est-à-dire dans l'Orne et l'Est de Paris. Il y a deux aspects sur ces aspects de migrants. D'abord, effectivement, on a un problème en France, ça c'est plus général, sur la gestion des flux migratoires et en particulier sur l'immigration illégale. Et donc, on a un problème sur l'immigration illégale, mais on a eu une deuxième faute grave qui a instrumentalisé et pris en otage, instrumentalisé les migrants et pris en otage les Parisiens, ça a été l'appel d'air fait par Anne Hidalgo. Parce que quand on dit Paris, ville ouverte, venez, venez, Paris vous accueillera, elle vous tend les bras. Et là-dedans, on n'a ni d'hébergement à offrir, y compris aux migrants qui obtiennent le statut de réfugié, et encore moins à tous les autres. Et donc, aujourd'hui, c'est facile de dire « Ah, il y en a trop, c'est l'État, c'est le gouvernement qui ne
sait pas les gens. » C'est une crise humanitaire, comme le dit Benjamin Griveaux. Comment traiter ce problème, maintenant que vous l'avez posé?
Mais c'est une crise politique, ça démontre le cynisme, la lâcheté et l'absence de responsabilité. Parce que qu'est-ce que ça génère, ces 3000 migrants sur le trottoir? Tous les trafics. Et il y a des mineurs.
Mais vous, maire de Paris, vous feriez
moi,
quoi
d'abord, d'abord, la première chose, je demanderais à ce qu'on puisse retirer tous ces camps. Voilà. Déjà, on peut le faire. La deuxième chose...
On les démantèle et puis ils sont réinstallés.
On regarde et on peut, c'est assez facile à faire, on sait à peu près le statut d'à peu près les migrants qui sont présents. Ceux qui doivent être expulsés sont à expulser. Moi, j'ai fait voter au Parlement européen un amendement il y a très longtemps dans le cadre d'un rapport d'initiative. Donc ça devait être repris et là, ça va être enfin sérieusement repris. C'est de dire on conditionne l'aide au développement vis-à-vis des pays à condition qu'ils reprennent leurs citoyens quand ils sont expulsés. Parce qu'on a un problème avec les pays d'origine qui ne reprennent pas leurs ressortissants. Ça, c'est le premier point. De la même manière, on peut dire à ces pays, si vous ne les reprenez pas, on ne donne plus de visa à vos citoyens qui veulent venir. Et l'autre aspect, c'est qu'on puisse avoir une politique européenne cohérente. D'ailleurs, Agnès Evren a pris le relais sur le sujet, parce que j'étais en charge de cela au Parlement européen. C'est d'avoir une liste commune des pays sûrs. C'est quoi un pays sûr? C'est un pays où on peut expulser les citoyens. Par exemple, l'Allemagne expulse les Afghans, nous non. Certains expulsent les Soudanais, d'autres
alors,
non.
Alors il va falloir effectivement revoir pour vous toute cette politique.
Donc il y a des effets d'aubaine, et en France, comme on n'expulse pas, tout le monde vient en France.
Juste avant de passer la parole.
Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, la mairie de Paris n'a pas vocation à ouvrir les trottoirs.
Est-ce que pour cela, il faut une police municipale plus organisée? Vous dites une police municipale armée, qu'est-ce que ça signifie?
Oui, bien sûr. Moi, j'ai été la première à le proposer sous les huées. C'est de dire, aujourd'hui, la police municipale, enfin le semblant de police municipale qui existe, fait quoi? De la verbalisation de voitures, c'est de la chasse aux voitures. Aujourd'hui, vous avez vu que la délinquance a fortement augmenté à Paris. La police municipale armée devrait s'occuper de la délinquance du quotidien. Voilà. On déleste effectivement la police nationale qui est sur son cœur de métier. Effectivement, la police municipale armée s'occupe de la délinquance du quotidien et la tranquillité publique. Et puis, on peut même aller jusqu'au bout en ayant de la sécurité privée pour de la surveillance ou notamment de sites.
Alors,
ou
ça
de bâtiments.
L'objet, bien sûr, d'autres rencontres. Damien Fleurot, on continue sur
autre
Paris.
Autre dossier, autre sujet de cette campagne municipale, la propreté. Alors, chacun y va de sa petite déclaration. Je cite par exemple celle d'Alain Souchon qui dit que Paris est devenu sale et violent. Vous partagez ce constat, mais
si
votre
vous vivez à Paris, je pense.
Votre solution, oui. Mais ce constat-là, vous le partagez?
Parce que c'est super propre.
Non, mais votre solution et votre constat.
Non, mais ça, c'est un coup. Monsieur, vous êtes journaliste, je vous demande pas.
Moi,
si vous êtes pour
moi j'ai surtout l'impression qu'à chaque campagne municipale, oui. Eh bien, les candidats disent que Paris est de plus en plus sale. Et je suis pas sûr que Paris était plus sale ou plus propre il y a 20 ans. Mais,
ah bon, vous trouvez que c'est. Bah, si c'est propre.
Comment vous allez donner un coup d'arrêt,
je pense, sur la propreté? Parce que qu'est-ce qui s'est passé à Paris? D'abord, c'est un vrai sujet, la propreté. Moi, effectivement, j'ai trois axes sur mon projet. C'est la gestion de l'espace public, mmh. entre la sécurité, la tranquillité publique, la dépossession de l'espace public. On en vient de parler des migrants. C'est de maintenir les familles à Paris, parce que dès lors que vous avez d'accord. un deuxième ou troisième enfant contraint, vous êtes obligé de partir. Et puis sortir de l'écologie, finalement, idéologique. Mais sur la propreté. C'est-à-dire que la mairie de Paris, elle a piétonnisé sans adapter les équipes de propreté. Donc plus vous piétonnisez, plus vous rendez de l'espace aux piétons, ou en tout cas une autre forme de mobilité, plus c'est sale.
Et là donc ce où sont les Parisiens qui sont sales.
Et c'est pour ça que moi j'ai cette expérience. Je suis maire du 7e et j'ai des espaces très importants, notamment le Champ de Mars ou les Invalides ou l'avenue de Breteuil. Ce sont des grands espaces extrêmement touristiques et utilisés. Et donc là, par exemple, moi, j'ai demandé à être dans une expérimentation pour avoir des poubelles compactantes parce que la poubelle qui déborde, évidemment, n'incite pas à un certain civisme. Moi, je ne veux pas qu'on culpabilise les Parisiens, je veux qu'on leur apporte des solutions. Et donc, sur la propreté, je vous prends l'exemple du 7e arrondissement, où effectivement, on a piétonnisé les voies sur verre.
Et après, on parlera de l'écologie.
C'est plus sale. C'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai des brigades d'intervention et j'ai fait un partenariat avec une entreprise d'insertion qui agissent en complément des agents municipaux. Donc, il y a le service municipal de propreté. Et
donc
puis, quand c'est sale, les habitants...
Donc, on n'y touche pas au service municipal.
Si, parce que je vais revoir la réorganisation des services de propreté. Aujourd'hui, ça ne peut pas fonctionner comme quand il y avait où on pouvait circuler partout. Mais donc, aujourd'hui, c'est de revoir l'organisation des services de propreté. Pourquoi pas externaliser.
Mais pour bien comprendre votre projet, pour bien comprendre, oui. on a compris sur la propreté. Non, mais il y a aussi un enjeu
simplement, par exemple, les habitants du 7e...
L'enjeu environnemental.
Quand c'est sale dans un coin, ils nous appellent et on fait intervenir l'entreprise d'insertion. Donc, l'organisation et la gestion de la propreté à Paris est à revoir en externalisant, en ayant des entreprises d'insertion, en revoyant le matériel. C'est ce que je fais dans le 7e. Je pense qu'on peut le généraliser.
D'une manière générale, vous considérez qu'Anne Hidalgo est allée trop loin dans sa lutte contre l'automobile. Vous parliez d'écologie idéologique. Vous revenez en arrière?
Quand il y a eu une carte qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur la pollution. Donc on dit ils vont plus de voitures parce que ça pollue. Et le nord et l'est, où c'est le plus embouteillé, c'est les endroits les plus pollués. Donc moi, je veux bien qu'on s'affiche écologiste en empoisonnant les gens par les embouteillages. Il faut être cohérent. C'est-à-dire qu'on dit on empêche la voiture, mais on n'adapte pas les transports publics collectifs. Donc il faut être cohérent, il faut être intelligent. Et ça demande de l'expérience, c'est pas du sectarisme, ça demande du pragmatisme, et ça,
mais
effectivement,
là,
on peut le faire.
L'existant, avec maintenant toutes les nouvelles pistes qui ont été créées, les nouvelles places réorganisées, et tout le travail... qui vise à sortir la voiture de Paris, vous le stoppez, vous arrêtez, vous recommencez?
Non, mais on revoit les aménagements. Je vous donne un exemple. Regardez, il y a eu pas mal d'aménagements pour les ronds-points, pour les grandes avenues. Moi, j'ai eu le cas en bas de la Tour Eiffel, on devait tout nous fermer, rendre tout ça cyclable. Et puis, et finalement, heureusement, j'ai fait un recours auprès du préfet de police. On nous a maintenu une voie de circulation. Mais c'est-à-dire qu'il y a eu des aménagements qui étaient décidés et sur lesquels on est revenu. Rappelez-vous la rue de Rivoli. Donc, c'est fait de manière, mais totalement, c'est n'importe quoi. C'est ni raisonner.
Sur la manière, ça
donc
fonctionne.
Il faut revoir les aménagements Nicolas de manière Barré. Plus ouverte et ouais. plus concertée.
Comment on peut réformer Nicolas Barré?
C'est 55 000 fonctionnaires, c'est un chiffre qui a augmenté sous la mandature d'Anne Hidalgo. Tous ne sont pas aux 35 heures. Qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là? Vous réduisez le nombre de fonctionnaires et vous passez tout le monde aux 35 heures?
D'abord, il faut revoir parce qu'à chaque fois, à chaque élection, il y a eu une couche supplémentaire d'agents. C'est plus de 51 000 contractuels compris. Ouais. Moi, je pense qu'il faudra revoir les missions de chacun. Et là, aujourd'hui, il y a même des pénalités sur les heures non travaillées. Il y a des pénalités parce que l'absentéisme coûte cher. Donc, on a un fort taux d'absentéisme. Et je ne mets pas en cause les agents de la ville de Paris. Moi, je travaille en direct avec eux pour la mairie du 7e. Franchement, ils sont plus que volontaires. Mais quand vous n'êtes pas dirigé, quand vous ne donnez pas d'objectif, franchement, ça va à volo.
Vous réduiriez les effectifs de la
fonction publique parisienne. On peut réorganiser. Il faut ou redéployer, réorganiser. Vous pouvez réduire puisque chaque mandature, on a rajouté des couches. Donc la réduction, effectivement, peut exister. Puis il y a beaucoup de contractuels qui n'ont plus, dont les missions n'ont plus lieu d'être.
Il y a un autre enjeu également concernant évidemment cette campagne, c'est sa structuration politique, la majorité, comment vous allez vous organiser, comment vous allez créer une majorité. Est-ce que vous mettez envoyez des candidats dans tous les arrondissements, y compris dans les arrondissements de droite où il y a des tentations d'aller ailleurs.
À ce stade, après l'investiture, on mettra des candidats partout. Une partie d'ailleurs est présente aujourd'hui, mais on mettra des candidats partout et on verra ceux qui effectivement... moi je trouve que si un parti qui n'investit plus n'est plus un parti. Et puis, moi, je trouve qu'on a des idées à
donc
défendre.
À ce stade, parce
on
que,
a
du
un
coup,
bilan à défendre.
Vous allez négocier, par exemple, on pense, dans le 9e arrondissement, vous allez négocier avec certains profils de candidats.
Non, mais ceux qui ont quitté le parti, il n'y a pas de discussion.
Ils auront des candidats contre eux.
Mais ce n'est pas des candidats contre eux. Je trouve que l'intérêt d'une élection, moi, c'est ce que j'aime en politique, c'est la démocratie. Ben, il faut qu'il y ait des candidats, que chacun représente son projet, ses idées, ses convictions. Et donc, là où il y aura, enfin, on mettra des listes LR partout. Là
vous,
où
allez,
il,
voilà. Vous allez tenter aussi d'arrêter la fameuse guerre à droite à Paris ? Parce que ça a quand même été une machine à perdre, quand même, toujours.
Oui, et finalement, nous, on est en conséquence. Agnès Evret pourrait en parler mieux que moi. Lorsqu'elle s'est présentée...
Dans l'occurrence, c'est vous l'invitez.
Non, mais... Parce que non, et quand elle s'est présentée à la présidence de la Fédération de Paris, je peux vous dire que ça n'a pas été simple pour elle. Et tout le monde l'a donnée perdante, tout le monde ne lui a pas favorisé cette victoire, et elle a été très bien élue. Donc si on pouvait conforter ces petites victoires, ces vraies victoires, ça serait pas mal, parce qu'il y a une attente de notre électorat.
C'est un signal au vieux baron de votre parti.
Mais non, il faut arrêter de dire vieux baron, c'est pas un tour de vieux ou du vieil ou de jeune ou pas jeune, il y a des jeunes... et qui sont déjà, et qui essayent de sauver leur poste. Moi, ce que je n'aime pas, c'est les gens qui, quand ils n'ont ni bilan, ou qui sont accrochés à un siège sans avoir vu l'évolution de Paris, et qui continuent à vouloir s'accrocher au siège. Moi, je trouve que c'est pas ça la politique. En tout cas, c'est pas la manière dont nous, on souhaite la faire à Paris.
Voilà, eh bien, comprenne qui pourra. Le message est bien envoyé donc, aux compagnons de route à Paris. On se retrouve dans quelques instants.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
Et Rachida Dati que l'on retrouve pour ce grand rendez-vous. Vous êtes visé par une enquête préliminaire ouverte pour, je cite, abus de biens sociaux et corruption active et passive, je cite, dans le cadre d'un des volets de l'affaire Carlos Ghosn. Et selon une source proche du dossier, vous auriez touché 900 000 euros d'honoraires en tant qu'avocate entre 2010 et 2012 et 600 000 euros pour des missions de conseil dont la réalité, selon l'enquête, reste à prouver. Est-ce que vous pouvez nous donner aujourd'hui tranquillement votre version des faits?
Bon, déjà,
vous êtes là pour donner votre version des faits.
Donc il faut arrêter, ce n'est pas 900 000 plus 600 000, il faut arrêter. Et puis on a dit, vous auriez touché comme si on avait...
Je cite les propos
comme
de l'enquête,
si on avait touché ça sous la table de manière illégale. Moi, je vais vous dire, moi je suis engagée en politique... pas pour gagner ma vie, mais je gagne ma vie. Moi, je ne suis pas une rentière, je ne suis pas une héritière. Tout ce que j'ai obtenu dans la vie, c'est le fruit de mon travail. Y compris, et je vais vous le dire, et vous le savez, M. Darmon, parce que rappelez-vous, vous aviez même fait un petit livre pas très sympathique me concernant.
Voilà, ça, sur c'est
lequel,
fait,
voilà ça s'est fait. Sur lequel, d'ailleurs, vous vous êtes excusé, parce que beaucoup de choses étaient fausses et des mensonges indiqués dans cet ouvrage.
On a bien maintenu une partie des choses, ça, allons-y.
Mais non, mais
c'est
parce
pas le sujet,
que c'est toujours le truc sulfureux. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas du sérail, c'est sulfureux. Moi, je travaille.
Non, en l'occurrence,
mais
alors,
non, c'est pas je travaille. Je travaille. Je gagne ma vie, c'est déclaré aux impôts, c'est déclaré à la haute autorité, c'était déclaré au Parlement européen, tout ça est transparent. Ça, c'est la première chose. La deuxième, vous parlez d'une affaire, il y a une information judiciaire qui serait ouverte contre moi. Elle n'est pas ouverte contre moi, je ne suis pas visée par l'information judiciaire. C'est une information judiciaire qui concerne Renault-Nissan. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc je ne suis pas visée par l'ouverture de l'information judiciaire.
Mais vous êtes citée.
Non, attendez. Et la troisième chose, ça n'est pas une plainte de Renault à l'encontre de Rachida Dati. Ils ont été contents des services et des prestations en ma qualité d'avocat. Nous étions d'ailleurs plusieurs avocats à travailler pour Renault-Nissan. Ça, c'est aussi l'autre point. Là, subitement, il y a un avocat, pour des raisons, d'ailleurs que dans votre profession, vous le connaissez, pour des raisons très personnelles et très obscures, a souhaité déposer plainte contre moi en utilisant sa femme qui a acheté des actions Renault avant une assemblée générale pour après pouvoir déposer plainte contre moi. Donc, si vous voulez, cette instrumentalisation, moi je ne suis pas dupe des manœuvres.
Ce que vous dites de manière générale,
non, mais attendez,
c'est intéressant
comme ça.
De l'expliquer.
Non, mais vous dites, il faut que j'explique,
comme ça,
je vais expliquer jusqu'au bout.
Allons-y.
Donc, c'est un avocat. Il prend sa femme, ils achètent des actions avant une AG et ils déposent plainte contre moi. J'ai déposé plainte contre cet avocat, j'ai été entendu dans le cadre de ma plainte et il a été entendu également
déposé
dans le cadre de cette
plainte.
Bien sûr, mais pour atteinte grave quand même, parce que c'est trop facile. Mais demain, vous achetez une action dans n'importe quoi, j'achète une action européenne et je dépose plainte contre vous.
Ça voilà. Consistait...
Et je nuis à votre carrière.
Juste pour...
Et comme par hasard, le timing ne vous a pas échappé. Ça sort
ouais.
juste
vous
au moment...
Vous estimez qu'effectivement, ça vient au moment de la campagne.
Non, juste... Monsieur Darmon, Vous n'êtes pas... Non, mais attendez, vous n'êtes pas...
Posez la question,
répondez. À perdre de l'année. Vous faites comme si...
Oh, non, bizarre. C'est pour... Non, vous savez, tout le monde curieux. Ne connaît pas la politique, je ne pense pas qu'à moi. Tout le monde ne connaît pas la politique, vous êtes écouté par beaucoup de monde.
Monsieur Darmon.
On veut comprendre.
Monsieur Darmon, je ne veux pas être désagréable avec vous.
Non, vous ne...
À quel moment,
vous allez l'être, je sens.
À quel moment vous aviez sorti le livre qui était à charge contre moi, que vous avez écrit avec un de vos collègues? À quel moment vous l'avez sorti? À un moment d'une échéance, quand il fallait que je sorte du gouvernement, comme par hasard.
Et en disant que vous seriez très longtemps encore un politique, dont acte. Donc, oui, l'idée, c'est que...
Sur lequel
il faut...
vous attaquez violemment ma vie privée. Voilà.
Il faut absolument, aujourd'hui, justement, parce que pour tous ceux qui vous écoutent, continuer à vous expliquer. Donc, vous dites, c'est instrumentalisé par
ça sort toujours au bon moment. Voilà. Mais je ne suis pas dupe de ça. Et d'ailleurs, certains, y compris à Paris, j'en leur en aurais parlé cette semaine en disant qu'il faut qu'ils arrêtent. Parce que certains, je sais très bien, ce n'est pas la première fois. En 2010, rappelez-vous...
Dans votre famille politique ?
Non, mais il y a des personnes au sens large. En 2010, j'ai été l'objet d'attaques extrêmement violentes et je m'en suis bien sortie.
Mais juste pour...
Parce que j'ai démontré ma totale intégrité. Donc là, ça recommence. Mais vous savez... Ce que les gens ne comprennent pas, enfin, pour certains, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que mes ressorts ne sont pas les leurs, ils ne les connaissent pas. Parce que si j'avais dû être effondrée, si j'avais dû... Mais alors, vu ce que j'ai vécu dans ma vie, mais alors ça, c'est rien, c'est rien. Donc ça passera comme le reste. Mais ceux qui en sont à l'origine n'y échapperont pas.
Damien Fleurot.
On est... à mi-mandat, ou presque, ce sera mi-novembre, et les stratégies dans chaque camp, chaque famille s'élabore. Comment, dans votre famille politique, désigner le ou la candidate à l'élection présidentielle de 2022? Est-ce qu'il faut enterrer tout de suite la primaire? C'est ce que vous dites à Christian Jacob, le nouveau patron de votre mouvement?
Moi, je vais vous dire, comme dirait mon père pour l'école, quand je disais « Oh, c'était bien, c'était pas bien », il me dit « C'est le résultat qui compte ». Ben là, le résultat de la primaire...
Un fiasco pour vous?
La gauche n'existe plus. Voilà. Donc déjà, on,
et
aurait,
la droite
dû,
est inaudible,
on aurait dû
jusqu'à présent.
Utiliser la jurisprudence. Hein. Et donc, d'abord, je trouve que c'est le nivellement, parce que ça ne prend pas forcément les meilleurs. Et puis,
donc
et puis
on
d'autre
se base
part,
sur
ça
quel
fait...
critère?
Alors moi, j'ai pas, sinon ça se saurait, je n'ai pas la solution magique. Mais moi, je pense que la primaire, ça génère des haines, ça génère des violences. Après, on a du mal. Hein. Quand vous mettez des gros coups de latte aux uns ou aux autres, après, c'est un peu compliqué. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois. Donc, on verra. Là, ce qui est important pour nous, c'est de gagner les municipales, les régionales, et je pense qu'on sera bien placé pour la rampe
ensuite,
de lancement.
Et François
pour
Baroin, la présidentielle. Par exemple, candidat aux municipales, mais... pourrait être un bon candidat de votre famille politique? Un c'est élu dit...
Pour, non mais François Baroin, moi j'ai une grande amitié pour lui et depuis longtemps, et il le sait, il me soutient d'ailleurs dans mon combat parisien, mais il y a aussi beaucoup d'autres personnalités de talent. Et donc aujourd'hui, la priorité et l'objectif pour nous, après l'élection de Christian Jacob, c'est de gagner les municipales, les régionales, les départementales, de tout gagner jusqu'au présidentiel.
Et en même temps, la question se pose forcément, parce que vous y pensez également, comment désigner le candidat qui va peut-être réussir à casser ce match Le Pen-Macron, tant annoncé, tant ancré, inévitable.
Ben, je vais vous dire, comment casser ce duel Le Pen-Macron, c'est de gagner toutes les élections intermédiaires. Nous sommes quand même le parti qui avons le plus d'élus. Le plus d'élus. Je ne vous parle même pas des militants. Donc, pour nous, c'est un véritable atout. C'est-à-dire que la droite, elle existe. Et la droite de terrain, c'est mieux qu'une idéologie hors sol. La droite de terrain, ça existe. Et donc, et moi, je pense que le duel a marché une fois, ne marchera pas deux fois. Moi, je suis convaincue que 2022, ce ne sera pas le même schéma que 2017.
On voit qu'à mi-mandat, Emmanuel Macron a un socle de partisans. Le JDD publie un sondage ce matin autour de 34%, un socle qui mord un peu à droite, il faut quand même le dire. Qu'est-ce que vous pensez des relations régulières qu'il entretient, que le président entretient avec Nicolas Sarkozy? Et plus précisément, que recherche-t-il l'un et l'autre dans cette relation?
Comme vous le savez, je connais bien Nicolas Sarkozy, on en a déjà parlé. Moi, Emmanuel Macron, je l'ai aussi connu.
Et qu'est-ce qu'il en recherche?
On peut avoir aussi des échanges. Enfin, on n'est pas des sauvages.
Oh, c'est plus que des échanges, là. Il se concerte.
Et j'en ai parlé. Nicolas Sarkozy, il ne vous a pas échappé que ça a été un grand président de la République et un ancien président de la République, y compris ceux qui n'étaient pas dans son camp, considèrent quand même que ce bilan, finalement, ce n'était pas trop mal. Donc, et c'est un président de la République, un ancien président de la République. Il a l'expérience et le vécu de crise et non des...
Il a été défait.
D'accord, mais ensuite, la présidence française, on parle de l'Europe. et des difficultés de l'Europe. Il a été un grand président de l'Union européenne pendant la présidence française. Et
oui, mais
tout
visiblement,
le monde
les Français n'ont pas et jugé donc, ce bilan suffisant. Vous parliez de Lionel Jospin.
Si vous voulez me rappeler qu'il a été battu, oui, tout le monde le sait. Donc vous n'avez pas besoin de le rappeler. C'est bien où il a été battu, très bien. Donc ça, c'est pas la question. Il est qu'il a une expérience. Vous savez, l'échec n'efface pas l'expérience. Bien au contraire. Et d'ailleurs,
donc,
peut-être qu'il a appris aussi cet échec-là. Et donc, et je pense qu'ils échangent aussi sur des sujets de nature stratégique dans l'intérêt du pays.
Et au nom de cette expérience, si vous attendez de Nicolas Sarkozy qui soutienne le candidat de votre famille politique en 2022 ?
Nicolas Sarkozy a sans doute des défauts, il a une grande qualité. Il n'a jamais trahi. Il n'a jamais quitté sa famille politique. Et il a toujours été aux côtés des siens, quelle que soit la configuration et l'échéance. Et on a vu que ça lui a plutôt pas mal réussi. Ça, c'est un petit, aussi une spéciale dédicace pour ceux qui font des zigzags en permanence, qui ont des colonnes vertébrales en chewing-gum.
Oui, quoi. Tous ceux qui sont passés de la droite à...
C'est la colonne vertébrale en chewing-gum, généralement, à un moment donné, pour remarcher droit, c'est un peu compliqué. Hein.
Christian Jacob, qui lui aussi n'a jamais dévié de ses convictions et de ses choix, a toujours lutté contre le rapprochement donc avec le Rassemblement national, ex-FN. Est-ce qu'il aura les moyens de sa politique aujourd'hui, lorsqu'on sait que dans certaines fédérations, dans l'Hérault par exemple, comme on le voit aujourd'hui, eh bien, on milite ouvertement pour un rapprochement avec le Rassemblement national pour les prochaines élections?
Non, d'abord, il n'y a pas de militantisme ouvert de gens LR qui veulent un rassemblement.
Non, mais vous savez, c'est transpartisan. On dépasse les étiquettes, notamment aux élections municipales. On se décolle l'étiquette partisane connue.
D'accord. Et alors?
Et du coup, on peut éventuellement nouer des alliances.
D'accord, mais ce n'est pas parce que vous enlevez l'étiquette de l'affiche que l'étiquette réelle n'existe pas.
Donc vous serez vigilante à...
Bah, bien sûr. Enfin, vous ne posez jamais la question à la gauche sur ces alliances, des fois... dans son extrême avec le pire. Et sur la droite, on vous dit urbi et torbi, il n'y a jamais
qu'il y a
d'alliance.
Parce qu'il y a eu un président de la République qui s'appelait Jacques Chirac qui a posé ce qu'il appelait le cordon sanitaire,
oui,
bah, et en disant jamais de rapprochement
depuis,
avec le Front
Sarkozy
National. On n'a pas dit qu'il a fait. On pose la question qu'il y a une tentation des électeurs. Il y a les tentations de l'électorat de l'Union des droites. Qu'est-ce que vous en pensez?
Et il n'y a pas une tentation des électeurs de gauche pour l'Union des gauches?
Mais on pourra en parler après. Voilà. D'abord, à la première question.
La droite, je vous dis, ça ne s'est jamais fait. Donc ça ne se fera pas plus à l'avenir.
Selon les sondages qui sortent aujourd'hui, notamment en octobre, où une majorité d'électeurs et de sympathisants de la droite sont favorables à ce rapprochement, qu'est-ce que vous dites?
Ils ne sont pas favorables au rapprochement partisan et d'appareil politique. Ils souhaitent qu'on règle des problèmes que souvent, c'est vrai, le Front National met sur la table. Voilà. Cette histoire de laïcité, de voile et autres, ça a été mis sur la table au détour d'un événement malheureux. Et donc, aujourd'hui, on est obligé de prendre position. Donc, nos électeurs nous demandent, nous aussi, de prendre position, d'agir, de prendre des initiatives et d'éradiquer les problèmes qu'ils connaissent.
Bon, dernière question, Nicolas Barré.
On dit que ce pays est un archipel. Qu'est-ce qui réunit encore les Français, au fond?
Ce sont encore ces valeurs fondamentales. Et je veux vous dire, quand je suis arrivée comme garde des Sceaux, lors de ma passation de pouvoir avec Pascal Clément, en présence d'Albin Chalandon, auquel je dois énormément, sans parler de Jean-Luc Lagardère, et en étant à Repin, j'ai une pensée pour lui. Mais quand je suis arrivée main dans la main avec Albin Chalandon, pour qu'il me mette, si je puis dire, dans le fauteuil qu'il avait occupé 20 ans plus tôt, lorsque je l'ai rencontré, lorsque j'étais étudiante, Pascal Clément a eu une phrase en disant « Vous résumez à vous toute seule une page de l'histoire de France. Ça en dit long sur notre pays. Moi, j'aime ce pays. J'y suis profondément enracinée. » Donc, c'est vrai. C'est pas qu'il y a une tentation de l'archipel. La France est devenue un archipel. Et c'est pour ça qu'après 5 ans de mandat de François Hollande, le pays était dans un état désastreux.
Et aujourd'hui?
Et c'est vrai que quand Emmanuel Macron est devenu président de la République, quand il est investi, il a dit « J'aurai un objectif, c'est de réconcilier ce pays. » Aujourd'hui, les inégalités s'aggravent. Les fractures s'aggravent. Moi, tout à l'heure, vous parliez du vote. Moi, je crains qu'à un moment donné, que ça se finisse par des votes de classe et plus par des votes, effectivement, de Français en fonction de leur histoire, de leur attente, de cette communauté de destin. Le vote de classe, c'est comme le suffrage censitaire, c'est très dangereux.
Merci, c'était le grand rendez-vous de Rachida Dati.